Ici Max Cohn, je suis à l'Université Concordia à Montréal. Nous sommes le 29 mai 2009 à l'occasion d'un colloque sur les exceptions françaises et je suis avec Marc Angenot qui a la chaire James McGill d'études du discours social. J'ai déjà eu l'occasion de le rencontrer plusieurs fois. Et Marc Angenot a publié énormément de livres sur ce discours social et sur la rhétorique. Est-ce que vous pouvez nous préciser l'objet de votre recherche et vos récentes publications ?
Bon, très volontiers. Écoutez, je vais vous en citer deux ou trois, hein, on va se limiter. J'ai publié l'an dernier, chez Mille et une Nuits, à Paris, un traité de rhétorique que j'ai appelé « Dialogue de sourds ». Traité de rhétorique antilogique. Mon idée est la suivante, c'est que la plupart des traités de rhétorique disent depuis 2500 ans que la rhétorique est l'art de persuader. Je ferai une objection d'abord élémentaire, après ça les questions se posent, qui est les humains argumentent constamment, mais se persuadent à l'évidence très peu que de la querelle de ménage aux controverses philosophiques ou aux disputes de bistrot sur des questions de politique, c'est à mon avis l'impression qu'on a l'un et l'autre et que tout le monde peut avoir. Et donc il y a une série de questions qui en sortent. D'une part, pourquoi les humains se persuadant si peu argumentent-ils tout le temps? Et d'autre part, qu'est-ce qui ne va pas dans la communication argumentée? Parce que depuis 50 ans, on a ce modèle qui est un peu celui dont on discute dans le colloque ici, un modèle de la communication. Il y a un émetteur, un destinataire, un code, un message. Je dis fermez la porte, vous allez fermer la porte, tout baigne dans l'huile. Mais si je me mets à vous expliquer des convictions, qu'elles soient libérales ou staliniennes, d'extrême droite, d'extrême gauche, et que je vous donne tous mes arguments, je vais constater curieusement que je parle à un mur. Et donc il y a là vraiment quelque chose de fondamental. J'ai essayé de faire, de construire, ce qui ne me paraît pas du tout paradoxal, mais au contraire tout à fait empirique, une rhétorique des malentendus. Une théorie de la manière dont les humains ont vraiment beaucoup de peine à raisonner, à communiquer.
Alors, il y a le malentendu chez Vladimir Jankélévitch,
absolument,
qui est fondateur de la relation de communication chez lui. Alors, est-ce que c'est un auteur dont vous vous servez?
Oui, alors Jankélévitch est certainement, mais vous l'avez deviné, il est quelque part dans l'arrière-plan de ma réflexion. Mais enfin, pour raconter un peu ma vie intellectuelle, je suis l'élève de Chaim Perelman à Bruxelles, donc de son grand traité de...
Parce que vous êtes d'origine belge.
Oui, je suis d'origine...
Faut le dire.
Oui, je suis d'origine bruxelloise. Et donc Perelman, qui était mon professeur...
J'ai écrit des livres sur la rhétorique, que j'ai lu.
Oui, le grand traité qui a relancé la rhétorique, c'était devenu vraiment une science poussiéreuse et cléricale, donc plus personne ne s'intéressait à quoi, plus personne ne s'intéressait. Alors avec ce retour à la fois, c'était un juriste, Perelman, un philosophe du droit. Il a revenir sur la rhétorique d'Aristote, reprendre les anciennes catégories de la persuasion. Et à partir de là, et de chercheurs anglais, américains et allemands à la même époque, on voit au milieu des années 50 revenir sur cette chose qui est tellement essentielle dans la société, qui est évidemment, ou dans une société où on se tape sur la gueule, ou bien on discute, et dans la conception qu'on peut avoir de la démocratie, et surtout après l'effondrement de ces grands récits totaux de type historiciste, il ne reste guère que la rhétorique. Donc Jankélévitch, vous avez raison, c'est la pensée du malentendu. Le fait que, après tout, je vis dans un monde qui est peu déchiffrable. Je ne sais pas ce qui se passe dans votre tête, je ne sais pas vraiment ce qui va se passer demain, je ne connais pas bien les causes de ce qui s'est passé hier, et donc je passe mon temps à argumenter à partir de là. Donc c'est vrai, j'ai essayé de faire cette théorie, une théorie rhétorique, dont je pense qu'elle sera intéressante, et ça c'est un de mes livres récents.
Qu'est-ce que vous a apporté Chaim Perelman?
Alors Perelman, eh bien puisque d'abord vous avez une émission en yiddish, Perelman qui était d'origine polonaise, qui avait un accent polono-yiddish prononcé, je n'ai eu qu'une seule conversation avec lui, c'était l'examen oral, où il m'a dit « parlez-moi de Spinoza ». Et j'ai dit ce que j'avais appris par cœur de Spinoza, j'ai eu une note assez moyenne, et puis je suis sorti par la porte et ça a été tout. Mais dans les années qui ont suivi, en commençant comme jeune prof à Montréal, je me suis mis à travailler sur ce traité de rhétorique, sur ses autres publications aussi. J'ai publié un livre dans les années 80 qui s'appelle « La parole pamphlétaire » et qui est justement une tentative de décrire ces genres, disons, le pamphlet, la polémique, etc., sur lequel il n'y avait, au moins en français, aucune espèce de recherche. Parce qu'on était justement dans l'ère structuraliste, on faisait des...
Oui, c'était, on vient de parler du structuralisme, ce serait peut-être intéressant d'ailleurs de reprendre peut-être ce qui vient d'être dit là.
Oui, Provenzano vient de nous rappeler que dans les années 60-70, il y a une sorte de dominante qui correspond au développement des études littéraires, une dominante d'un structuralisme. On va se mettre à montrer que dans les romans, il y a des actants, des narèmes, des séquences de narèmes, etc., un côté un peu chiant, et qui fait d'une certaine manière aussi que les autres genres, comme le pamphlet, je ne peux pas parler du pamphlet sans parler de la vie politique et du monde concret, je ne peux pas rester dans des structures que personne ne les étudiait. Donc je me suis mis à étudier ces formes du discours polémique, particulièrement en France, en allant d'Henri Rochefort au pamphlétaire 68-art, j'avais largement matière, donc j'ai travaillé là-dessus. Depuis lors, je suis revenu sur la rhétorique, tenait dans un livre paru en 2005, qui s'appelle « Rhétorique de l'antisocialisme », où j'essaie de me demander quels sont les arguments opposés au socialisme, pratiquement depuis Louis-Philippe jusqu'à nos jours, et comme toujours, au fond, il y en a qu'une poignée.
Lesquels ?
Bien, je vais reprendre ce que dit Albert Hirschman, qui est un grand spécialiste américain. Il pense que tous les arguments de la droite contre le progrès et la gauche se ramènent à trois. Il n'y a jamais eu que trois arguments. L'un qu'il appelle innocuity, vous ne changerez pas la nature humaine, c'est pas la peine de donner le droit de vote aux femmes, la politique ne les intéresse pas, ça c'est l'argument 1. L'autre qu'il appelle perversity, vous voulez X mais vous obtiendrez le contraire. Vous voulez augmenter le salaire minimum mais vous allez augmenter le chômage, vous connaissez celui-là. Et le troisième qu'il appelle jeopardy, vous voulez un progrès mais ce progrès va mettre en danger des droits acquis. Et donc c'est aussi un peu mon idée depuis un siècle et demi que des tas de gens, des cléricaux, des libéraux, des conservateurs, s'opposent au socialisme. Ils ont trouvé 4 ou 5 idées qui sont pratiquement immuables, qui varient à peine dans le temps. Donc j'ai essayé de reconstituer. Ça me paraît intéressant de montrer que, au fond, l'inventivité d'arguments n'est pas donnée à tout le monde. Parfois, en un siècle, un groupe social n'en invente que 4 ou 5. J'essaie de montrer comment ça marchait.
Et quels sont les projets que vous avez actuellement ?
Bon là, je vais faire un exposé sur, ça continue sur nos idées de polémique, sur le mot fascisme, depuis que Mussolini a inventé au moins deux mots du XXe siècle, fascio, fascisme et totalitario. Totalitaire. Et depuis les années 20, d'abord les exilés italiens, ensuite le Comintern, ensuite les historiens, depuis 45, des tas d'écoles d'historiens se disputent sur le sens à donner au mot fascisme. Donc je le prends comme un bon exemple de dispute savante perpétuelle.
Et de malentendu.
Et de malentendu, effectivement, entre les historiens des idées qui voient le fascisme naître chez Maurice Barrès, ce qui fait horreur aux historiens positifs qui ne le voient naître que quand il y a des squadres qui foutent le feu à des maisons du peuple dans les campagnes romaines. Il y a évidemment un malentendu qui peut perdurer un demi-siècle sans que les deux groupes ne comprennent vraiment quel est le point de vue de l'autre. C'est bien classique.
Est-ce que vous partagez cette idée de totalitarisme de Hannah Arendt qui recouvrirait le nazisme, le stalinisme, éventuellement le fascisme, ou est-ce qu'il y a des différences fondamentales entre ces différents systèmes ?
Écoutez, là je vais vous faire une réponse érudite. Le mot totalitarisme dans les années 20 et 30, bien avant Arendt, c'est un mot des catholiques. Les catholiques, parce que justement, détestant les bolcheviques, athées et persécuteurs, et détestant les fascistes et les nazis, non moins athées et persécuteurs, ils inventent, si vous voulez, une catégorie qui va englober l'anti-religion d'extrême gauche et l'anti-religion d'extrême
droite. Ça sort d'où ce mot ?
De Monsieur Mussolini lui-même.
Ah d'accord.
Alors, comme il avait, comme son un des opposants qui s'était, je pense, enfui, Giuseppe Amendola, avait reproché à Mussolini de vouloir créer un État total, Mussolini a dit en public, nous avons une féroce volonta totalitaria, nous avons une volonté totalitaire. C'est lui vraiment qui invente le mot, mais va être repris tout de suite par ses ennemis, ses adversaires. Et comme je vous l'ai dit, c'est surtout dans les années 30 et 40, les catholiques, parce qu'ils avaient besoin d'une catégorie pour dire, nous n'aimons ni Lénine, ni Mussolini, ni Hitler, et donc on a besoin de... Bon. Dans les années de la guerre froide, où arrive Hannah Arendt, totalitaire devient en fait une manière de dire au communisme stalinien vous avez beaucoup de ressemblances avec le nazisme que nous venons de détruire.
Le mot fascisme lui-même est un raccourci pour dire tout ça.
Alors,
c'est... espèce de fasciste, ça voudrait dire ça.
Ça veut rien dire. Aujourd'hui encore, si vous allez à Budapest, vous avez le pont des chaînes, là, à Budapest, il y a marqué détruit par les fascistes en octobre 45.
C'est qui ?
Alors, c'est pas les fascistes, évidemment, qui étaient déjà disparus, c'est les nazis. Et pour les communismes fascistes, déjà cette grande catégorie englobante qui, au fond, est essentiellement, à partir de 45, le nazisme. Vous voyez, donc là, on a, c'est un travail tout à fait intéressant à faire, parce qu'il ne consiste pas à dire ni que les catholiques avaient à la berlue en 1930 en trouvant qu'il y avait des persécutions religieuses en Union soviétique et en Allemagne nazie, ils voyaient juste, ni que le Comintern avait tort de trouver des ressemblances entre Mussolini et Hitler, et bon, ils avaient raison, hein. C'est pas ça notre problème, c'est vraiment de montrer historiquement comment se développent ces innombrables polémiques insolubles qui aboutissent justement à des dialogues de sourds.
Alors. Et le mot fascisme lui-même, alors ?
Alors, le mot fascisme est assez facile. Non, il est compliqué. Allez, en une minute, c'est ceci. Fascio, en italien, ça veut dire soit les faisceaux que portent les licteurs dans la Rome ancienne, c'est-à-dire qui précèdent le consul avec une hache et des verges qui sont le symbole du pouvoir du consul romain. Bon, ça voulait dire un des sens. Mais l'autre sens, on appelait fascio ce que les Français appellent le Ligue, les Allemands appellent Bund, c'est-à-dire une association politique, une coalition politique. Et donc c'est bien les deux sens, les fasci di combattimenti en 1920, c'est d'abord une coalition d'anciens combattants, de nationalistes, de gauchistes parfois, qui se mettent ensemble, et c'est aussi l'idée d'un État qui renouerait avec la puissance de l'État romain, avec les fasci dei littori.
Dites-moi, il y a un texte dans la salle où a lieu ce congrès, un texte que vous avez écrit, qui est une intervention à un colloque, j'ai l'impression.
C'est l'intervention à ce colloque.
C'est l'intervention à ce colloque. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots, puisqu'il y a des auditeurs qui vont pas pouvoir venir à ce colloque, qui n'y sont pas d'ailleurs, mais qui peuvent vous entendre sur Internet, hein. Donc, pouvez-vous nous résumer votre intervention ?
Bon, je peux la résumer en une minute. Depuis exactement 50 ans, les historiens français et en majorité des historiens étrangers se disputent sur le point de savoir s'il y a eu quoi que ce soit comme du fascisme en France. Vous me direz que le problème a l'air d'être résolu, et bien pas du tout. Si vous lisez vraiment les grands historiens français, bon, l'idée d'abord qu'il y a eu un pré-fascisme du temps de Barrès, etc., leur fait horreur, passant. L'idée que les ligues des années 30 étaient fascistes, ils sont pas d'accord, c'était plutôt, ils vont pinailler, conservatrices, etc. L'idée que le régime de Vichy était fasciste, ben non, il est trop traditionnel. Lui aussi pour ça, et donc finalement il n'y a jamais eu de fascisme en France, et 50 ans de disputes entre historiens français et historiens étrangers ne sont pas parvenus. Bien entendu, le principal qui est vraiment mon maître sur le plan méthodologique, c'est C.F. Ternel, le professeur de la chaire de sciences politiques à l'université hébraïque. Sternel est arrivé avec une conception très large du fascisme et avec une thèse qui a vraiment traumatisé vers 1970, qui était que la France avait été le berceau de la pensée fasciste en Europe, que... toutes les années 1885 à 14 voit naître en France une doctrine toute constituée qui est ni la gauche socialisante, ni la droite conservatrice, et qui va appeler ni droite ni gauche. Quand Sternel publie ça en 74, la totalité des historiens français s'indigne. C'est pas tellement, il y avait certainement un côté de patriotisme blessé, la France, mais il y a aussi l'idée que quelque chose que les Français ne font pas, c'est justement de l'histoire des idées. L'histoire des idées suppose qu'un mot comme fascisme, qui n'a de sens qu'à partir de 1920, pourrait être reporté sur des idées qui émergent quelque part à droite, à l'extrême gauche, du côté d'un nationalisme antisémite qui cherche un chef qui va guider la France, enfin des choses comme ça qu'on voit s'agglomérer. L'histoire des idées, comme vous vous en doutez, c'est plutôt une mayonnaise, il y a des ingrédients, puis on touille, et puis il y a quelque chose qui prend. Et donc Sternel appelle ça pré-fascisme. Indignation des historiens français, justement parce que c'est des historiens du congrès, du concret. Ce qu'ils veulent, c'est que le fascisme soit un mouvement organisé qui va prendre le pouvoir. La question de savoir ce qui a pu se passer dans les 20 ou 30 années qui précèdent, ça ne les intéresse pas vraiment. Donc, ils s'engueulent, et je vais essayer de décrire 50 ans d'engueulade, ce qui revient à dire que les premiers sont déjà morts, et que leurs disciples continuent à prolonger cette polémique finalement absurde.
Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots de l'équipe de recherche qui organise ces colloques? C'est intéressant, ça aussi, à Popovic, et puis c'est, bon, ma femme Nelly participe depuis plusieurs années, ce qui fait que nous nous connaissons aussi, que j'apprécie de converser avec vous, et que l'idée m'est venue aujourd'hui de vous interviewer, parce que j'ai ce site depuis un an. Mais ça serait intéressant de dire deux mots. Comment ça s'appelle? Qui participe et comment vous fonctionnez?
On a un groupe de recherche qui s'appelle EDI, et j'ignore absolument qu'est-ce qu'il y a derrière ce sigle. En tout cas, il est intégré dans un centre, lui, qui fonctionne à Montréal, mais avec des chercheurs de Liège, de Lille, etc. Et un centre qui a un très joli nom, qui s'appelle le CRIST, Centre de Recherche Interuniversitaire de Sociocritique des Textes. Ça marche très bien, ça fait CRIST.
Faut le deviner.
Il fallait le deviner, mais en tout cas, ça ne s'oublie pas une fois qu'on l'a appris. Donc, ce centre de recherche est composé de gens qui voient plutôt, qui essayent de sortir justement de l'enfermement des études de littéraires dans des questions de pure fiction, etc., qui va essayer d'immerger notamment les textes littéraires dans du social, de l'historique et tout ça. Bon, donc d'une certaine manière, c'est un groupe qui va un peu en porte-à-faux et qui est composé de gens qui héritent des vieilles traditions et à la fois de critiques marxistes de la littérature version Georg Lukács 1920 et de la tradition de la sociologie de la littérature. Voilà. Alors, pour ma part, je suis plutôt un historien des idées, un théoricien d'argumentation, mais enfin je me trouve tout à fait proche de ces chercheurs.
Donc Pierre Popovic.
Alors Don Pierre Popovic, qui est lui-même, qui a fait beaucoup de livres tout à fait intéressants, son tout premier portait sur une sociocritique de la poésie québécoise.
Popovic est belge aussi d'origine.
Qui est d'origine belge, comme son nom l'indique, et qui est d'origine liégeoise. Et c'est probablement pas par hasard que ce centre de recherche, qui est assez largement ouvert, comporte des gens de Belgique, du Québec, du nord de la France, mais d'une certaine manière, très peu de Paris et de l'université française. C'est encore, effectivement, même géographiquement, il s'agit d'une entreprise périphérique.
Est-ce qu'il y a un lien avec la psychanalyse dans votre réflexion, dans votre groupe de recherche, avec la question de l'inconscient ou le fait inconscient? Parce que on l'entend sans arrêt dans ce que vous dites. Bon, bah, évidemment, moi je m'inscris dans la psychanalyse, les entretiens que je fais sont aussi un peu cliniques et un peu analytiques, même sans être de la psychanalyse. Cette question du malentendu et la question de l'inconscient, ça marche ensemble un peu.
Oui, peut-être je ferai une nuance dans le sens que les rencontres entre le psy et le social, le sociologique, n'ont jamais très très bien marché, peut-être pour des raisons qu'on ne peut pas creuser maintenant. D'une certaine manière, dans l'ordre de la rhétorique, justement, ce contre quoi je vais, c'est la tentative qui est là depuis 2500 ans, d'éliminer le psychologique de l'argumentation, c'est-à-dire d'essayer de ramener l'argumentation à du logos, à de la logique. Pour moi, évidemment, il n'y a de logique qu'une logique des sentiments. L'argumentation, ça carbure
à l'affect,
au ressentiment, à la rancœur, à l'angoisse, à tout ce qu'on veut.
Ça, c'est du côté de l'inconscient.
Et c'est indubitablement, mais il est très difficile de d'exprimer une argumentation. Je crois qu'une bonne partie du drame qu'on a dans rhétorique, c'est que la rhétorique a été faite par des légistes, par des avocats, et donc ils envisagent la situation du prétoire, où j'exige en principe du juge qu'il fasse totalement abstraction de ses affects et des effets de manche de l'avocat. Donc il doit être en effet pur. Raison juridique. Mais dans la vie courante, évidemment, ça ne correspond à rien de réel. Si je dois décrire, que ce soit du reste un débat entre philosophes ou une querelle de ménage, comme je le disais tout à l'heure, je ne peux pas isoler les arguments d'un côté et puis mettre le pathos de l'autre. Et donc c'est en effet une théorie englobante que j'essaye de concevoir, où il n'y a pas d'un côté, de l'autre côté. Il n'y a pas du psy d'un côté et de l'argumentatif de l'autre.
Merci Marc-Angenot.
Merci, merci et à une prochaine occasion.